Quelques mots de prédication après cette louange tous ensemble. Je voudrais rendre hommage ce matin à un homme que l'une de nous reconnaîtra en particulier. C'était un homme qui n'est plus de ce monde, qui est auprès de Dieu maintenant, qui était capable de raconter l'histoire d'un râteau, d'une pelle, pendant au moins un quart d'heure ou une demi-heure. Aux jeunes du groupe de jeunes. Je vois qu'il y en a déjà qui savent de quoi je parle, alors pardon pour les nouveaux ou les gens qui ne le connaissent pas. Il s'agit de Robert Huser, qui a été pasteur de cette église pendant de longues années et dont l'épouse ici est présente, Lucette. Je voudrais lui rendre hommage parce qu'il a, comment dire, meublé les camps de travail du groupe de jeunes de ses récits de râteaux et de pelles pendant un certain nombre d'années. Les jeunes faisaient des semaines, pendant les vacances de printemps, les vacances de Pâques, des semaines d'entretien des locaux qui servaient à des colonies de vacances, locaux des cotates. Et c'était des semaines très agitées, sauf pendant les temps de travail, où là les jeunes étaient étonnamment calmes et paresseux. Mais sinon, je règle mes comptes. Mais sinon, il y avait beaucoup de vie, beaucoup de joie. Et c'est dans ma mémoire de responsable du groupe de jeunes et de pasteur des moments très très bons, je crois, certains regards. Je pense à d'autres qui ont aussi des bons souvenirs. Robbie et ses outils. Robbie et ses bouts de fenêtre. Robbie et ses souvenirs en nombre. Et je me souviens d'un jeune qui arrive une fois vers nous, hilar, en tenant un râteau à la main, et me dit « Robbie m'a raconté l'histoire de ce râteau pendant un quart d'heure, pendant la guerre, il s'est passé ça avec ce râteau. » Enfin, Robbie avait une mémoire phénoménale. Cela me fait penser à un récit de l'Ancien Testament, à des récits de l'Exode et de la conquête. Nous sommes dans le livre de Josué ce matin, au chapitre 4. Et je lirai seulement quelques versets, mais la circonstance, je vais la rappeler, résumer rapidement. Le peuple d'Israël, dans le début du livre de Josué, vient de faire une longue marche dans le désert, de très très longue, hein, de dizaines d'années. Et le peuple arrive au Jourdain. Le Jourdain est une rivière impétueuse qu'on ne traverse pas comme ça. Josué a pris la succession de Moïse et il lui revient de mener la conquête de ce pays de Canaan. Il y a des espions ont été envoyés dans ce pays et le peuple, lui, va arriver à l'est du Jourdain, donc du mauvais côté, et il va falloir qu'il passe ce Jourdain. Les prêtres qui portent le coffre qui contenait les lois, l'arche de l'Alliance, se mettent dans le Jourdain, les pieds dans l'eau. Et le cours de l'eau s'arrête, nous raconte le livre de Josué. Et le peuple peut traverser le Jourdain à sec. Ça rappelle évidemment le passage de la mer des Joncs, hein, qui était le même genre de circonstances. Les prêtres eux-mêmes vont passer le Jourdain et ensuite l'eau reprendra son cours. Il y a eu un homme de chaque tribu, donc 12 personnes, qui ont pris une pierre dans le Jourdain et qui ont dressé un monument à côté. Alors le récit n'est pas tout à fait facile à comprendre, on ne sait pas s'ils l'ont dressé dans le Jourdain ou à côté, peu importe. Il y a eu un mémorial dressé de 12 pierres qui a été finalement mis à Gilgal, qui est une localité pas très loin du Jourdain, au nord de la mer Morte. Je vais vous lire le verset 6 du chapitre 4 de Josué. « Lorsque vos fils vous demanderont demain, que sont ces pierres pour vous ? Vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant le coffre de l'Alliance du Seigneur. Lorsqu'il a passé le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. » Ces pierres seront pour toujours un rappel pour les Israélites. Tiens, un petit peu plus loin, au verset 21. Il dit aux Israélites, « Lorsque demain vos fils ou vos enfants demanderont à leur père « Que signifient ces pierres ?» vous le ferez savoir à vos fils en disant « C'est sur la terre ferme qu'Israël a passé ce Jourdain. Car le Seigneur, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, comme le Seigneur, votre Dieu, l'avait fait à la mer des gens, et qu'il a mis à sec devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. » C'est afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est une main forte et afin que vous craigniez toujours le Seigneur, votre Dieu. Ce principe de piquer la curiosité des enfants n'est pas nouveau dans la courte histoire juive. Déjà, au moment de l'Exode, il y a eu, au moment de l'institution de Pessah, de la fête juive de la Pâque, il y a eu ce genre de mise en place. Je lis Exode 12. « Si vos enfants vous demandent ce que signifie cette cérémonie, donc la Pâque, Pâque juive, vous leur répondrez, il s'agit du sacrifice à l'occasion de la Pâque pour le Seigneur, lui qui a passé au-dessus, je vous rappelle que Pessah en hébreu, ça vient du verbe « passer », lui qui a passé au-dessus des maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il punit les Égyptiens, mais épargna nos familles. » Et puis, dans le livre de l'Exode, toujours au chapitre 13, à propos du sacrifice du premier-né. C'est donc toujours lié à l'Exode. Il serait intéressant d'expliquer plus avant tout ce qui se passe au niveau de la Pâque, mais je resterai très bref. Je cite donc Exode 13. « Lorsque tes enfants, dans l'avenir, te demanderont « Pourquoi fais-tu cela ?» tu leur répondras « Grâce à sa puissance irrésistible, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte où nous étions esclaves. Le Pharaon refusait obstinément de nous laisser partir. » Alors le Seigneur fit mourir tous les premiers-nés d'Égypte, aussi bien chez les êtres humains que chez les animaux. Voilà pourquoi, et puis l'explication continue. À propos du don de la loi dans le livre du Deutéronome, même chose, et ce sera ma dernière citation, Deutéronome 6, après la fameuse confession de foi israélite, encore dite aujourd'hui au début du chapitre 6, eh bien, il est écrit au verset 20 « Lorsque dans l'avenir ton fils te demandera pourquoi le Seigneur notre Dieu vous a-t-il donné ses instructions, ses décrets et ses règles ?» tu lui répondras « Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte. » Et puis là, les explications continuent encore. Un peu plus loin, nous trouverons en tout temps le bonheur si nous reconnaissons l'autorité du Seigneur. Voilà une pratique israélite qu'il ferait bon pour nous d'imiter. Laissons des pierres, 12 pierres, un tas de 12 pierres, des signes en tant que communauté, aux personnes qui nous rendent visite, aux jeunes qui sont parmi nous, aux enfants même. En tant que famille spirituelle, et nous avons chanté tout à l'heure en tant qu'une famille, bien là, dans les récits que je vous ai lus, c'était les parents qui disaient aux enfants ceci et cela. Eh bien là, ce sont les plus anciens qui disent aux plus nouveau ou au plus jeune, c'est le même mécanisme. Soyons une communauté spirituelle dans laquelle les plus anciens ont des choses à raconter. Alors pas seulement des histoires de râteaux et de pelles, encore que, pourquoi pas, mais des tas d'autres choses. Soyons une communauté où des plus nouveaux ou des plus jeunes ont des questions à poser et ont la liberté de poser des questions. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ci? Ayons dans nos locaux des souvenirs. Alors en ce moment, il y a encore les photos du chantier de rénovation, de construction. Hein. Il fait bon se souvenir de ces choses-là et de voir en photo des gens en train de pelleter, de casser, de reconstruire, de peindre, etc., etc. On se dit, il y a eu des choses qui se sont passées ici pour les nouveaux. Donc je vous invite à faire un petit tour dans les couloirs. Il y a encore des photos de nos travaux qui remontent pourtant à quelques années. Dans le presbytère, dans le bureau d'accueil, il y a des affiches de toutes nos actions, des fêtes, des barbecues, des soirées musicales, toutes sortes de choses. Et on les a amassées là depuis plusieurs années. Quand on rentre dans ce bureau d'accueil, on voit plein de choses qui se sont passées. Ce sont des souvenirs que nous avons de notre vie d'église à nous. Je me souviens que quand nous faisions des week-ends d'église, il y avait les décorations qui restaient pendant un bon moment accrochées dans un mur quelque part dans nos locaux pour dire « oui, on a fait ça ensemble ». Et c'est aussi une manière d'accueillir les nouvelles personnes, pas pour les exclure en disant « vous n'étiez pas là quand nous on a fait ça », mais pour leur dire « voyez, on est une famille, on vous accueille, on fait des choses et on est, on est heureux de les faire ensemble. Il ne s'agit pas de vivre dans le passé pour autant, de se dire « Ah, au siècle dernier, c'était bien », de se dire « C'était mieux avant », de se dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les souvenirs des semaines de Pâques avec le groupe de jeunes sont gravés dans ma mémoire, mais bon, c'est derrière. Maintenant, on a des choses à vivre aujourd'hui, avec les gens qui sont là aujourd'hui et qui seront là demain. Mais je me souviens quand même qu'au groupe de jeunes, quand nous y étions, nous invitions parfois des vieux. Ça m'inquiète, en écrivant mes notes, je me dis « Ouais, un de ces quatre, c'est moi qui vais être invité comme vieux. » Et on écoutait leur histoire. Et c'était toujours un moment assez fort, assez intéressant, de voir les questions qui étaient posées, la découverte de ces vieux qui avaient une histoire, qui n'étaient pas que des vieux. Alors, il ne s'agit pas pour autant de mettre des décorations impersonnelles dans notre église. Là, je parle de souvenirs que nous avons vécus, de choses que nous avons vécues. Et je rappelle aussi qu'il ne s'agit pas d'exclure des gens qui n'auraient pas vécu ces choses, surtout pas, mais de les inviter dans notre histoire et de leur dire qu'on les aime avec ce qu'ils apportent. Je voudrais citer un livre qui s'appelle « Le message de Josué », écrit par David Firth, à propos, en commentaire de ce mémorial de 12 pierres, et dressé par les Israélites, en commentaire appliqué à la vie d'Église. Aussi bien la Sainte Cène que le baptême sont des actes forts de commémoration. Alors aujourd'hui, on ne fera ni l'un ni l'autre. Mal choisi mon jour. Dans beaucoup d'assemblées, les enfants sont absents au moment où se tient la Sainte Cène. D'après mon expérience, il est plus courant qu'ils assistent au baptême. Même s'il convient de veiller à ce que soit maintenue la solennité qui convient à ces célébrations, il ne fait aucun doute que les deux suscitent des questions de la part des enfants, et convenablement menées, elles peuvent l'une et l'autre conduire au genre de discussion que Josué prévoit ici. Ce qui importe, ce n'est pas seulement que les enfants soient présents quand nous faisons ces célébrations, mais que nous construisions notre culte de telle manière que ce soit une véritable occasion pour les enfants d'explorer le sens de ces rites par lesquels nous commémorons et célébrons ce que le Christ a fait pour nous. » Fin de citation. Alors je dis les enfants, ça peut être pas que des enfants, hein, des adultes aussi, qui disent, mais voilà, qui posent des questions. Ce que les Israélites nous donnent comme exemple ici, c'est l'exemple du dialogue. On fait quelque chose, et ce n'est pas nous qui, écrasons de notre sagesse et de notre science des personnes qui sont autour de nous. C'est une question qui vient. Que notre Église, je l'ai dit tout à l'heure, soit un lieu où on a le droit de poser toutes les questions et même de remettre en question. Qu'il y ait cette liberté parmi nous, de la part de n'importe qui, de nous dire pourquoi. Et qu'on ne soit pas offusqué par certaines questions. Qu'on ait droit à toutes les questions. Même les questions bêtes, comme on dit souvent, hein, je vais poser une question bête. Quand on me dit ça, je dis, je vais peut-être donner une réponse bête aussi, comme ça on sera d'équerre. Respectons la curiosité des personnes, prêtons-nous à ce jeu-là dont on voit que les Israélites ont donné l'exemple. Donnons du temps. Il ne s'agit pas d'impulser une obéissance silencieuse, obséquieuse, craintive, une observance sans compréhension. Il faut que tous les gens qui fréquentent notre Église comprennent ce qui s'y dit, ce qui s'y passe. Il est important d'être accessible, qu'on ait envie d'entrer dans le dialogue, qu'on donne envie d'entrer dans le dialogue. L'importance aussi d'être digeste. Je me souviens de nos enfants qui citaient leur grand-père avec un peu de moquerie. Parce que mon père, était un peu comme Roby, c'est-à-dire qu'une fois, ils avaient parlé d'une variété de pommes et ils ont eu l'histoire du pommier, de la pomme, pendant une demi-heure. Et disaient, quand on pose une question à grand-papa, on en a pour notre argent, on a l'explication pendant... Et ils en riaient, bon, c'était l'histoire d'une pomme, ça va. Parce qu'il y a une variété de pommes golden, c'est des pommes belles fleurs quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien, hein, mais... Mais ne soyons pas indigestes à expliquer la grammaire hébraïque, pour citer un texte de Josué, par exemple, même si la grammaire hébraïque est intéressante, ou à expliquer la théologie de la rédemption, pour parler tout simplement du fait que Dieu nous aime. Il y a un temps pour tout. Il y a aussi la nécessité de la cohérence. Si nous parlons de l'amour de Dieu et des relations fraternelles, de la vie de famille, comme nous l'avons chanté entre nous le dimanche matin, et qu'à la sortie du culte, nous ne nous parlons pas, nous avons des relations tendues, qu'allons-nous donner à voir ? Nous allons donner à voir une religion vide, une religion sans profondeur, sans contenu, sans vie, sans âme. Nous allons donner à voir de l'hypocrisie, de l'incohérence. Cohérence entre nos actes et nos paroles, ce ne serait pas peut-être la meilleure pédagogie qui soit, celle de montrer l'exemple. Donc oui, il y a le dialogue, mais derrière ce dialogue ou avant ce dialogue, il y a la cohérence de nos vies, de nos relations, de notre vie de communauté. Les Israélites célébraient la libération de l'esclavage. Au moment de l'Exode, ils disent « chouette, choup, l'Égypte, c'est fini, on arrive dans une terre dans laquelle nous pourrons nous établir, voilà, c'est super ». Ils ne vivaient plus en Égypte. On imagine mal que, sitôt la conquête faite et le pays où les gens s'y sont installés, etc., on imagine mal des agences de voyage, l'Égypte, ses paysages à couper le souffle, ses pyramides, la vallée du Nil. Venez passer une semaine de vacances en Égypte. Ouais, une agence de voyage comme ça, du temps de Josué, ça aurait fait tâche quand même. Dans nos églises, y a-t-il pas des agences de voyage un peu bizarres comme ça ? Alors, j'ai rien contre les voyages, y compris sur l'Égypte d'ailleurs. Mais si nous avons été libérés de l'esclavage du péché, et je fais le parallèle, on le fait souvent entre la libération de l'esclavage en Égypte et la libération de l'esclavage du mal qui nous tenait prisonniers. Alors, si nous avons été libérés de cet esclavage, de ces liens, ne faisons pas bonne presse à tout ce qui pourrait nous y faire revenir. Le mal, le mensonge, que je disais tout à l'heure, l'égoïsme, la violence, toutes sortes de dépendances, que sais-je encore, que dans notre Église et que dans toute Église chrétienne, on ne donne pas envie de retourner dans la servitude du mal. Et qu'on chante, comme on l'a fait ce matin, la libération. Et qu'on soit fier et heureux de ne plus être prisonnier du mal que nous faisions, dans lequel nous étions liés. Alors voilà, cohérence. Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas écrit pour terminer ma lecture de ce texte, c'est la réaction des enfants. Lorsque tes enfants te demanderont, etc., ok, tu leur expliqueras, etc., mais après, il n'y a rien qui est écrit. On ne sait pas ce que les enfants vont faire. C'est un silence qui nous instruit. Nous ne sommes pas responsables de ce que les gens vont décider. Nous sommes responsables de leur donner des choses. Mais après, nous ne sommes pas dans la manipulation, dans un genre de pression, de chantage. Chacun est libre. Je viens souvent à répéter que dans les principes de la foi baptiste, protestante en général, il y a la liberté. La liberté d'âme, la liberté de conscience, comme on dit. Alors l'explication est donnée, oui. L'exemple est donné. La vie communautaire que nous vivons, et là je viens à notre situation à nous, est donnée. Mais c'est à chacun de faire ses choix, de tenir compte de cet exemple ou pas. Nos jeunes, nos enfants, reçoivent des informations, une éducation même. Mais ils sont libres, ils ne nous appartiennent pas. Je vais vous citer un théologien du 2e ou 3e siècle d'Afrique du Nord, Tertullien, vous avez sans doute entendu ce nom, qui a écrit, qui a dit « Il n'est personne qui veuille des hommages forcés, pas même un homme. C'est cité par mon ami et frère Hervé Paradis Murat, qui est prêtre à Sainte-Marie, et c'était dans le cadre du calendrier interreligieux de la ville de 2018 sur la laïcité. Et on avait choisi de citer ça en disant la liberté. Et dans notre Église, il y a la liberté de recevoir et ensuite de s'engager ou pas. Notre vœu, notre prière, notre enthousiasme, c'est que tout le monde s'engage. Que ceux à qui nous annonçons cet évangile formidable, source de vie, s'engagent. Que nous fassions envie à ces personnes qui viennent dans l'Église de s'engager. Mais comme l'a dit Tertullien, et ça fait quand même quelques années qu'il l'a dit, il n'est personne qui veuille des hommages forcés. Allons-nous forcer des gens à rendre un hommage à Dieu? Nous ne le pourrons pas. Ce serait illusoire et Dieu n'en voudrait pas. Créer l'envie, disais-je, par notre enthousiasme. Créer l'envie par notre authenticité, notre joie de vivre, nos activités, nos chantiers, nos cultes, le ménage, les groupes de maison, les baptêmes, la scène, l'ambiance, les relations, les sorties de culte, l'amour, la solidarité, les fleurs, la musique, la louange, le parc et sa pelouse bien tondue, par nos paroles, par notre témoignage, par notre modestie, et au milieu de tout cela, par notre Dieu dans sa gloire, faisons envie. Et si des personnes sont à se poser des questions sur ceci ou cela parmi nous, posez-les 10 fois, et on essaiera de répondre. Je vous invite maintenant à un temps de prière, libre, comme tout à l'heure, que chaque personne apporte par la prière la conclusion qu'elle souhaitera à ces quelques mots de méditation que je vous ai proposés. Je propose que quelqu'un de l'Assemblée commence et je terminerai en priant moi-même.